deuxième temps de notre série d'émissions consacrée au bac dans le cadre de l'opération spéciale de notre chaîne Bac 2017 mention France Culture, à laquelle participent aussi tout à l'heure, juste après cette émission, les chemins de la philosophie, puis cet après-midi la méthode scientifique et la compagnie des auteurs, et dimanche prochain à 16h l'émission De cause à effet. Après avoir hier exploré le thème « Gouverner la France » avec Sébastien Durand, professeur au lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec, et avant demain de nous interroger sur la guerre d'Algérie avec Sylvain Boulouk et ses élèves du lycée Gustave Eiffel de Rueil-Malmaison, nous nous arrêterons ce matin en compagnie de Nathalie Coste, professeur au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, qui est venue avec deux classes pour cette émission sur la puissance américaine dans le monde. Pour commencer, comme pour toutes les autres émissions de cette série, nous vous proposons un reportage sur un lieu d'histoire emblématique du sujet du jour. Ce matin, nous vous emmenons dans une prise de son de Yves Lehorse et une réalisation de Véronique Samouilov au musée franco-américain de Blérancourt, dont la conservatrice Mathilde Schneider nous retracera l'histoire qui plonge en pleine Première Guerre mondiale. Bonjour Nathalie Coste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous donc pour cette deuxième émission consacrée à la préparation du bac d'histoire. Nous allons traiter de la puissance américaine dans le monde. Je commence peut-être traditionnellement par cela. C'est un sujet qui intéresse les élèves de terminale. C'est un sujet difficile, plus difficile ou moins difficile que les autres en l'occurrence. C'est un chapitre compliqué.
Alors c'est pas un chapitre très compliqué, mais c'est un chapitre long et dense, puisqu'il s'agit de couvrir le rapport des États-Unis au monde depuis 1918 jusqu'à nos jours. Donc évidemment, inutile de vous préciser que ça fait quand même une somme d'acteurs et d'événements très importantes, et que la difficulté, c'est qu'ils ne s'y perdent pas.
Voilà, et donc pour ne pas s'y perdre, eh bien, on peut peut-être commencer, comme toutes les émissions de cette série, par un long reportage, un reportage que nous avons réalisé donc à Blérancourt, un endroit qui est un musée franco-américain et qui donc débute justement pendant la Première Guerre mondiale et surtout qui va voir son élan juste après la Première Guerre mondiale. On va l'entendre tout de suite avec Mathilde Schneider qui nous y guide. Mathilde Schneider, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec vous au château de Blérancourt, au musée franco-américain de Blérancourt, dans l'Aisne, dont vous êtes la conservatrice. Pourquoi sommes-nous ici avec vous dans le cadre d'un cours et d'une leçon pour le programme du baccalauréat d'histoire autour des États-Unis et du monde?
Le musée franco-américain de Blérancourt a été fondé en 1924 par Anne Morgan, notre figure tutélaire, pour honorer cette mémoire, cette relation d'amitié internationale transatlantique entre la France et les États-Unis. Anne Morgan était la troisième fille de John Pierpont Morgan, des banques Morgan & Chase, et elle était francophone et francophile, et au tout début de la Première Guerre mondiale, elle s'est engagée dans des organisations humanitaires pour venir en aide notamment aux soldats et ensuite aux civils.
Que les États-Unis n'étaient pas entrés en guerre.
Tout à fait. Elle s'engage dès 1915, alors que les États-Unis n'entrent en guerre qu'en avril 1917. Et à cette époque, donc, Anne Morgan prend conscience de l'état de dévastation véritable de la région. On considère que nous sommes ici en zone rouge, c'est-à-dire une zone infertile car truffée d'obus. Et le général Pétain, qui a alors son QG au palais de Compiègne, lui assigne en réalité les ruines du château de Blérancourt parce que les troupes allemandes viennent de quitter la région et que donc il est important de venir au secours des civils dans cette région, donc autour de Blérancourt.
Et on va s'approcher de l'endroit où elle s'installe dans ce château de Blérancourt pour à la fois y vivre avec ses volontaires, mais aussi pour accueillir des donateurs, puisque le principe de cet endroit, c'est d'accueillir des donateurs américains en particulier, qui vont aider à la reconstruction des régions dévastées pendant la Première Guerre mondiale. Alors nous sommes ici dans un très bel endroit, donc ce rez-de-chaussée de ce petit pavillon où elle avait élu domicile, donc Anne Morgan, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, décorée très sobrement, pourrait-on dire, avec au-dessus des chambres, j'imagine, pour pouvoir accueillir ses amis qui venaient et qui étaient parmi les nombreux donateurs de cette organisation qu'elle avait créée. Comment s'appelait cette organisation ?
Alors, Anne Morgan vient en 1917 sous le nom de l'American Fund for French Wounded, puisque c'est la première organisation à laquelle elle a participé, et elle crée une section civile, donc spécialement dédiée aux civils, comme son nom l'indique, à Blérancourt. Et puis, petit à petit, elle va prendre de l'autonomie par rapport à cette première organisation, et elle va fonder le Comité américain pour les régions dévastées en 1918, au printemps 1918, lorsque les troupes allemandes reviennent dans la région et qu'elle aide à évacuer les populations de Blérancourt et de la zone, donc vers le sud et vers l'île de France.
Parce qu'il faut penser qu'effectivement, cette région a été très disputée entre troupes alliées et troupes allemandes, et qu'il y a eu des allers-retours, des sortes de respirations du front qui ont fait avancer le front de plusieurs dizaines de kilomètres, puis reculer ensuite.
Oui, alors Blérancourt est vraiment au milieu de cette zone d'aller et retour de la ligne de front. Donc les populations vraiment subissent de manière très très forte les dommages de la guerre. Et à l'issue de la guerre, donc lorsque le comité américain revient vraiment sur le plus long terme, puisqu'ils vont rester jusqu'en 1924, ce qui est assez long pour une organisation humanitaire, notamment étrangère, les civils et les populations de la région vivent dans des cagnas, c'est-à-dire des tranchées sur lesquelles on pose tout simplement une tôle ondulée pour faire un toit. Et les premières familles s'installent dedans, sous ces abris de fortune, dans les ruines évidemment de leur propre maison. Et donc le principe d'Anne Morgan et de ses volontaires américaines, c'est vraiment d'aller au plus proche de ces populations pour leur rapporter de la joie de vivre et du secours, bien sûr.
Vous nous dites les volontaires américaines. La particularité effectivement de cette organisation montée par Anne Morgan, c'est qu'elle mobilise des femmes, y compris dans des travaux qui ne sont pas des travaux habituellement dévolu aux femmes dans la France et même le monde du début du XXe siècle, en particulier les travaux de mécanique ou de chauffeur, puisqu'elles vont sillonner toute la région. C'est cela, Mathilde Schneider ?
Oui, tout à fait. Il est amusant de lire dans les mémoires de certains hautes personnalités locales que les centres du comité américain sont comme des essaims qui, le matin, vibrent et bourdonnent. Et puis, tout d'un coup, les volontaires montent dans leurs forts de thé, donc les fameuses forts de thé importés des États-Unis. Et grâce à de jeunes femmes qui, à la fois, ont leur permis de conduire, ce qui n'est pas donné à toutes les femmes américaines de l'époque. Pour beaucoup d'entre elles, ce sont de très jeunes femmes issues de la bonne société américaine, et à lire leurs lettres, on comprend qu'elles n'ont pas vraiment idée du terrain et vraiment de l'état de la région dans laquelle elles vont arriver et dans laquelle elles vont travailler. Et donc, grâce à ces forts de thé, elles vont en effet donc sillonner la région. On considère que le CARD a aidé à peu près 130 villages et 60 000 personnes sur cette période des 7 années de 1917 à 1924.
Et les aide comment ?
Anne Morgan parle toujours d'une reconstruction morale et sociale. Ce sont des termes assez forts pour nous encore aujourd'hui, pour montrer bien la globalité de l'appréhension de la reconstruction dans la tête, dans l'esprit d'Anne Morgan. En effet, elle s'attache finalement assez peu à la reconstruction architecturale, par exemple. Elle aide au tout départ à la remise en culture des champs et surtout à la réorganisation des fermes en coopératives agricoles. Parce qu'évidemment, les femmes, pour beaucoup d'entre elles, donc les veuves, ont du mal à s'organiser, justement, à reprendre des activités qui étaient davantage masculines. Donc le comité américain va les aider, à la fois en fournissant des tracteurs, mais aussi des bêtes, des chèvres, des poules, etc. Et tout simplement en fournissant un petit peu de main-d'œuvre pour aider ces femmes à se réorganiser entre elles. Et puis, elle va donc également déployer, bien sûr, des actions et des missions de santé et d'hygiène publique. Elles vont également vraiment importer à Blérancourt les Rolling Libraries, donc ces bibliothèques circulantes qui sont en fait vraiment l'ancêtre de nos bibliobus, puisque c'est l'une des disciples françaises des volontaires du comité américain qui va créer le premier bibliobus de laine à Soissons, qui est Victorine Vérine. Elles remettent également au goût du jour à la fois des jeux et des fêtes traditionnelles, car Anne Morgan n'est pas du tout dans une optique d'impérialisme culturel, bien au contraire. Elles vont donc essayer de recréer ce lien social entre les familles et les membres de ces familles décimées, notamment grâce, par exemple, au jeu de boules picarde qu'elle fait installer sur les pelouses du château, en restaurant le jeu d'arc, qui est vraiment un jeu vraiment très traditionnel dans la région. Voilà, et en apportant de la joie de vivre et des sports à Blérancourt.
Pour faire cela, il faut avoir de l'argent. Et donc, elle va mobiliser jusqu'à 5 millions de dollars, c'est ça, pendant cette période-là, pour pouvoir, auprès des Américains, drainer des fonds pour aider justement à toutes ces actions culturelles, éducatives et de reconstruction.
Tout à fait. Elle va dédier une partie de sa fortune personnelle pour investir donc des fonds. Elle a également donc une vision assez moderne quand même pour l'époque, notamment grâce à la photographie et au cinéma, puisque dès 1917-1918, elle va déléguer un opérateur cinématographique et un opérateur photographique qui vont travailler de concert en binôme et sillonner la région pour réaliser des films que nous avons encore et également de très 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 nombreuses photographies qui sont ensuite montées en albums et distribués ou vendus lors des soirées de levée de fonds, qu'il s'agisse de soirées de levée de fonds et de galas à Paris ou notamment à New York. En invitant par exemple et en appelant l'aide de Charlie Chaplin pour diffuser en avant-première de son film Le Gosse au Théâtre des Champs-Élysées en 1921, un des premiers films du comité américain et s'assurer ainsi bien sûr une grande visibilité auprès de l'élite parisienne.
Alors Mathilde Schneider, je vous propose de quitter cet endroit, ce pavillon dans lequel a vécu Anne Morgan, pour rejoindre un autre endroit de ce musée franco-américain de Blérancourt où on va justement parler de cette longue histoire de l'amitié franco-américaine avec vous, Mathilde Schneider. Mathilde Schneider, nous sommes ici dans une autre aile de ce musée franco-américain de Blérancourt qui, le musée n'est pas encore réouvert, il va réouvrir à la fin du mois de juin, sera consacrée cette aile aux échanges artistiques entre la France et les États-Unis depuis la fin du XVIIIe siècle. Alors, on a beaucoup d'œuvres qui sont emmaillotées, qui sont encore enfermées dans leurs caisses et leurs cartons avant de pouvoir être déballées pour cette exposition. Et nous sommes face à une œuvre tout à fait importante, une statue de Washington, sculptée par Houdon à la fin du XVIIIe siècle. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a dans cet endroit-là, non seulement le souvenir de cette aide américaine au moment de la Première Guerre mondiale, mais aussi le souvenir d'une longue histoire des relations franco-américaines depuis la fin du XVIIIe siècle.
Et oui, exactement. Et même ce que nous avons abordé concernant la venue d'Anne Morgan est en fait très lié à ce soutien français pendant la guerre d'indépendance américaine, donc à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'en effet, c'est à partir de cette fin de XVIIIe siècle que la communauté américaine croît de manière très importante, notamment à Paris, puisque Benjamin Franklin, notamment, vient en tant que ministre plénipotentiaire, si je puis dire, invoquer la cause des insurgents américains, donc des troupes de George Washington, auprès de Louis XVI pour recueillir l'aide donc des forces militaires françaises. Louis XVI va donc accorder cette aide militaire et de très nombreux jeunes hommes vont s'engager dans ce soutien aux troupes américaines contre l'Empire britannique au titre d'idéaux qui sont les idéaux des Lumières en réalité, puisqu'il s'agit de la liberté et notamment de l'égalité entre les hommes. Il semble évident à lire les écrits de grandes personnalités américaines pendant la Première Guerre mondiale, notamment avant l'engagement des États-Unis en 1917, que cet équilibre, ce juste retour des choses, donc entre ce soutien français aux troupes américaines fin 18e et l'engagement de ces volontaires américains, je le rappelle tout de même, au péril de leur citoyenneté, puisque les États-Unis restaient neutres encore jusqu'en avril 1917, cet équilibre est vraiment très clair. Une partie des Américains ne peut pas supporter l'idée que la France, leur amie de toujours, soit ainsi donnée en pâture aux troupes germaniques. Et donc, c'est sous cet idéal qu'ils s'engagent, à la fois comme membre de l'escadrille Lafayette, évidemment, et le nom est très révélateur, mais également dans bien d'autres organisations comme la Croix-Rouge américaine, l'American Field Service et également, bien sûr, le comité américain d'Anne Morgan, puisqu'elle aussi s'engage au titre de ce soutien et de cette amitié historique avec la France.
Alors, on est devant ce Washington en pied, un très beau bronze retiré, en fait, juste avant la Première Guerre mondiale. C'est un nouveau tirage, pourrait-on dire, du début du XXe siècle. Donc, d'après la sculpture de Houdon, qu'est-ce qu'on en sait de ce Washington et comment a-t-il atterri là ?
Alors, cette sculpture, en tout cas l'histoire de son original, est tout à fait intéressante, puisque à la toute fin du XVIIIe siècle, lorsque les tout jeunes États-Unis ont voulu rendre hommage à George Washington, qui est donc vraiment l'un des pères fondateurs, bien sûr, mais une figure extrêmement emblématique des États-Unis, Jefferson estimait que aucun artiste américain de l'époque, de nationalité américaine, n'était en compétence de rendre hommage avec grâce et esthétique à cette figure emblématique qui était George Washington. Et il a donc fait appel à Jean-Antoine Houdon, qui est donc venu à Mount Vernon, dans la propriété de Washington, prendre et faire des esquisses sur le vif, si je puis dire, de cette personnalité avant d'en réaliser donc une sculpture en pied, comme vous le voyez ici.
Alors on va quitter cette salle qui est consacrée ici dans ce musée franco-américain de Blérancourt aux échanges artistiques entre la France et les États-Unis depuis la fin du XVIIIe siècle pour descendre dans les nouveaux niveaux qui ont été travaillés depuis que les fouilles ont été entamées dans ce musée de Blérancourt pour rejoindre une des pièces maîtresses de ce musée, une ambulance. Mathilde Schneider, dans ce qui n'est encore qu'une sorte de fantôme de musée, c'est assez impressionnant se promener dans un fantôme de musée où les vitrines sont là mais les œuvres ne sont pas encore installées, où on a l'impression d'entrer dans ce qui sera une sorte de squelette dont la chair seront les œuvres qui seront installées dans quelques temps pour l'ouverture à la fin du mois de juin de ce musée franco-américain de Blérancourt. On se trouve devant une des rares pièces, on a un peu de chance, qui soit véritablement exposée telle qu'elle le sera pour les visiteurs, à savoir donc une ambulance de l'American Field Service qui date de cette Première Guerre mondiale, qui n'est pas liée directement à l'histoire d'Anne Morgan, c'est-à-dire c'est une autre organisation qui envoie des volontaires, en particulier issus des grandes écoles américaines, sur le front, alors que les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre en 1917, pour pouvoir aider les soldats et les soigner, en l'occurrence, puisqu'il y a une croix rouge sur cette ambulance.
Oui, cette ambulance est véritablement une figure emblématique de nos collections et la dernière subsistante au monde avec ses peintures encore d'origine de 1917. Donc en effet, c'est une pièce tout à fait spécifique en tant qu'objet, véritablement, parce qu'évidemment elle est assez imposante. Une Ford T qui a été donc adaptée puisque le caisson peut accueillir soit 3 brancards, soit 4 soldats blessés assis. Et donc ce caractère modulable, évidemment, a fait le succès de cette Ford T pendant la Première Guerre mondiale. Son histoire, bien sûr, est aussi très emblématique de ce lien France-États-Unis, puisque, comme vous l'avez mentionné, des étudiants de grandes universités telles que Yale ou Harvard sont venus donc dès 1914 et surtout 1915 s'enrôler donc dans une organisation qui s'appelait l'American Field Service, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est désormais une organisation internationale d'échange d'étudiants. Donc toujours finalement dans cette première idée, en tout cas, de coopération internationale. Et cette organisation, qui est donc l'une des premières à se mettre en place, était très liée à l'hôpital américain de Neuilly, qui lui aussi donc existe toujours, bien sûr, aujourd'hui, qui avait, dès l'automne 14, un système d'ambulance, mais Abraham Piat Andrew, qui est donc le fondateur de l'American Field Service, s'est quant à lui un petit peu battu avec l'état-major français pour que ce dernier accepte que des ambulanciers américains aillent jusque sur les lignes de front, récupérer des blessés français et les ramener dans les hôpitaux, notamment à l'hôpital américain.
Ce musée, en fait, est le moment de la sortie de l'isolationnisme américain, puisque c'est le moment où les Américains décident, soit individuellement, soit collectivement par des associations et des amicales, soit ensuite par l'État américain soi-même, de s'investir sur un théâtre d'opération qui n'est pas proprement américain, en l'occurrence Mathilde Schneider.
Absolument, parce que c'est la fin, en tout cas c'est un répit dans la fameuse doctrine Monroe, n'est-ce pas, du 19e siècle. C'est sans doute également pour cette raison que les États-Unis hésitent pendant tant de temps à entrer dans le conflit. Cette culture de l'isolationnisme a vraiment son rôle à jouer. Les États-Unis ne savent pas non plus, en tout cas hésitent à s'engager et surtout de quel côté s'engager, puisque certes bien sûr la culture francophile et anglophile est très forte, mais que la communauté à la fois germanique, allemande, italienne et irlandaise est également très importante aux États-Unis à cette époque-là.
Ce matin dans la cour des Invalides, une plaque à la mémoire de Miss Anne Morgan, décédée il y a quelques semaines à peine. Qui était Anne Morgan? Je crois qu'il me suffit de vous rapporter les mots qui ont été gravés dans le marbre pour vous le faire comprendre. Ces mots les voici. Anne Morgan, citoyenne américaine, commandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914, 1918 et 1939, intrépide et généreuse amie de la France, secourable aux blessés et aux réfugiés et aux prisonniers, insigne bienfaitrice des populations éprouvées et des régions dévastées par deux guerres, fondatrice du musée américain de Blérancourt. Voilà donc qui était Anne Morgan. D'éminentes personnalités assistaient à
alors, cette histoire ne s'arrête pas en 1914-1918. On a expliqué qu'Anne Morgan, avec son organisation, resterait jusqu'en 1924 à agir sur le terrain. Qu'Anne Morgan elle-même va rester toute sa vie, avec des épisodes où elle retournera aux États-Unis, mais jusqu'en 1952, jusqu'à sa mort, sur ce territoire français qu'elle aime tant. Et va participer aussi à l'organisation d'une aide au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mathilde Schneider, on va peut-être conclure là-dessus, parce que ça fait le lien justement sur l'influence américaine dans le monde jusqu'au-delà de la Première Guerre mondiale.
Anne Morgan ne délaissera jamais en effet la région de Blérancourt, puisque en 1939, vraiment au tout début de la Seconde Guerre mondiale, elle revient à Blérancourt, fonder le comité américain de secours aux civils, donc toujours avec cet attachement porté aux populations civiles et pas seulement aux soldats. Et cette organisation a, dans un premier temps en tout cas, pour premier objectif qui est d'évacuer tout simplement les populations de cette région, mais également de l'est de la France, puisque outre Blérancourt, elle va fonder des centres sur la frontière vers la Belgique ou vers l'Allemagne.
Et puis, on peut citer, pour conclure, cette promenade avec vous dans ce musée qui va réouvrir le 25 juin prochain, ici à Blérancourt, dans l'Aisne, la plaque qui est dédiée à Anne Morgan aux Invalides, intrépide et généreuse amie de la France, insigne bienfaitrice des populations éprouvées et des régions dévastées par deux guerres. Merci à vous, Mathilde Schneider, de nous avoir guidés dans ce musée. Voilà, Nathalie Coste, nous venons d'écouter donc ce documentaire, cette balade au musée donc franco-américain de Blérancourt. Alors, ça n'est pas directement dans le thème de cette ce chapitre autour de la puissance américaine dans le monde, mais néanmoins, cela permet peut-être d'amorcer cette question, puisqu'on est en pleine Première Guerre mondiale et que cette sortie hors de son pays, de la puissance américaine, c'est l'inauguration d'une longue, d'autres sorties de ce type, en l'occurrence Nathalie Coste.
Voilà, oui, tout à fait, puisque justement, un des aspects principaux de ce sujet, c'est de réfléchir sur la façon dont les États-Unis se comportent à l'égard du monde, c'est-à-dire cette oscillation entre l'isolationnisme et l'interventionnisme. Donc la période qui est choisie pour démarrer le thème, 1918, c'est d'ailleurs l'intitulé précis, c'est les États-Unis et le monde depuis les 14 points de Wilson, donc qui marque bien et qui signe bien une volonté d'être présent au monde, bien sûr peut être illustré notamment par ce reportage et ce qu'on y découvre.
Donc ce qu'on a écouté dans ce reportage peut-être servir pour, disons, parer sa copie de quelques remarques en ouverture, en particulier de ce thème sur les États-Unis et le monde à partir des 14 points du président Wilson. Donc, comment commence-t-on une copie sur un thème comme celui-ci, Nathalie Coste?
Alors, pour commencer une copie, de façon très classique, on procède évidemment aux étapes méthodologiques qui sont incontournables. Hein, donc, il s'agit évidemment d'accrocher le correcteur. Alors, évidemment, sur ce sujet de la puissance extérieure américaine, puisqu'en fait, ça revient quand même à ça, beaucoup de choses interrogent dans la l'actualité, et on peut partir en effet ou du passé ou du présent. Et bien évidemment, il n'a pas échappé aux élèves que la présidence de Trump inaugure de ce point de vue-là des incertitudes. Donc on peut partir d'une petite citation, par exemple, de Trump, qui dit la chose suivante: l'internationalisme américain est bon pour le reste du monde, s'il est bon pour le reste du monde, ne l'est pas pour les États-Unis, c'est un bad deal. Donc on peut partir de cette affirmation qu'on sera amené à interroger en conclusion, puisque évidemment on voit bien que la lecture de la politique étrangère de Trump n'est pas si simple et qu'elle est faite à la fois un peu des deux, mais c'est une idée. Bon, après on peut aussi évidemment évoquer des traces plus anciennes comme celle de la coopération franco-américaine dont on vient de parler dans le reportage.
Donc ça c'est en ouverture, cette capacité justement par une citation. La citation c'est important, comme nous le disait hier Sébastien Durand.
Oui, c'est toujours apprécié par les correcteur de voir que l'élève fait un effort pour connecter son sujet à une réflexion plus large et pour partir alors d'une citation connue ou peut-être d'un fait d'actualité, en tout cas de le relier à quelque chose de vivant. Alors après, bien sûr, s'imposent les étapes classiques de l'introduction, c'est-à-dire l'analyse du sujet, et évidemment il s'agit là de terme à terme voir à quoi renvoie d'abord les États-Unis en tant que tels, puisque là ils sont caractérisés clairement comme une puissance qui s'est bâtie à partir à la fois de l'économie, de la technique, de l'industrie, de sa puissance militaire, mais aussi, et c'est apprécié en introduction, de fondamentaux qui sont plus idéologiques et religieux. Et on peut penser que les élèves évoquent par exemple la destinée manifeste, ou par exemple la notion de nation indispensable qui se formulera plus tard comme étant quelque chose qui explique le rapport au monde des Américains aussi.
Ça veut dire qu'ils ont en tête, parce que leurs professeurs leur en ont parlé, ces notions-là de destinée manifeste en particulier.
Quand le professeur en a parlé, et généralement les collègues d'anglais en parlent aussi, ils peuvent avoir cette notion à mobiliser, et qui est le signe d'une culture un peu plus large, qui est toujours très très appréciée.
Donc une sorte de mission que se donnent les Américains dans le monde.
C'est ça, donc bon, on ne va pas rappeler, pour ne pas prendre trop de temps, mais cette notion, c'est une notion, la manifeste destinée, qui a été émise dans les années 1840 et qui au départ n'avait pas vocation à désigner la mission des États-Unis sur l'ensemble du monde, mais plutôt sur le continent nord-américain, mais qui ensuite a trouvé son extension à une échelle plus grande. Donc on peut mobiliser ça, en effet. Et puis évidemment, ce qu'il convient de faire, c'est de s'interroger bien sûr sur ce que sont les États-Unis comme puissance, puisque je rappelle que ce chapitre s'inscrit dans un thème plus large qui comporte la comparaison de deux puissances qui sont la Chine et les États-Unis, qu'on essaie évidemment d'interroger. Il faut évidemment réfléchir à la délimitation chronologique. Elle doit être justifiée par l'élève. Et le candidat doit montrer que 1918 lui évoque précisément quelque chose, les 14 points de Wilson aussi, et puis bien sûr jusqu'à nos jours, ça l'invite aussi bien sûr à une réflexion sur le long terme et sur le temps long. Donc de quoi est-il question dans cette délimitation chronologique depuis la fin de la Première Guerre mondiale? C'est effectivement, on le disait, la marque de l'engagement des États-Unis dans un conflit mondial à partir de 1917, alors qu'ils n'y étaient pas disposés et qu'ils étaient traditionnellement attachés à une forme d'isolationnisme. Mais leurs intérêts étant menacés par la guerre sous-marine à outrance, ils entrent en guerre donc en avril 17. Et cette sortie de tradition isolationniste, elle est portée par Wilson, qui va pourtant, qui était initialement en face avec la doctrine Monroe, qui était elle pourtant l'inverse et que les élèves connaissent aussi, qui va pourtant donc dérouler dans ces 14 points un programme de réorganisation finalement du monde au sortir de la Première Guerre mondiale, qui sera, on le rappelle, pas validée d'ailleurs par les États-Unis, et que cette décision va ouvrir un cycle très long jusqu'à nos jours, d'oscillation, et c'est vraiment le cœur du sujet, entre interventionnisme et isolationnisme, selon les périodes, qui évidemment suppose d'élaborer un plan chronologique qui nous amène de la décision de Wilson au leading from behind de Obama, qui consistait à avoir une forme de retrait, et puis aux incertitudes de Trump. Donc pour ça, on peut proposer évidemment une problématique qui réfléchit sur le lien signifié par le « et » dans le sujet, puisque dans l'énoncé,
les États-Unis et le monde,
voilà. Donc tout est contenu dans ce « et » qui donc indique de réfléchir sur un lien, une relation au monde. et sur les modalités de ce lien qui relèvent à la fois de la domination, du partenariat, de l'impérialisme et du retrait suivant les périodes. Donc il faut avoir ça dans la tête à chaque fois, et je pense que la problématique doit tourner autour de ça. Donc moi je peux en proposer peut-être
Allez-y.
Une qui serait comment est née et s'est déployée la puissance des États-Unis depuis 1918 et quelles en sont les caractéristiques depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours.
D'accord.
Alors je crois quand même utile de préciser aux candidats qu'il y a quand même des écueils sur ce sujet qu'il faudrait bien identifier, qu'en général, nous, en cours, on identifie bien, mais il ne faut pas, premièrement, qu'ils se laissent noyer, on le disait en introduction, sous la multitude d'événements sur la période, qu'ils peuvent connecter à d'autres chapitres en plus, parce que forcément, ils ont vu dans d'autres chapitres se dérouler des différentes choses. Donc il ne faut pas perdre de vue la réflexion sur le sujet qui consiste à traiter les modalités du rapport au monde des États-Unis. Ça veut dire ne pas rentrer dans les détails de la politique intérieure des États-Unis, par exemple. Même si parfois ils sont obligés de s'y connecter pour expliquer les choix extérieurs, il ne faut pas se laisser embourber dans cette direction. Et il faut évidemment aussi être capable de connaître la succession des présidents, leur appartenance politique et des grands choix qui ont été faits. Alors, le plan proposé s'impose comme, évidemment, un plan chronologique et chronothématique.
Et alors, trois parties.
Alors, effectivement, on retrouve le tropisme un peu de l'historien pour les trois parties, ce qui gêne les élèves de Sciences Éco qui, eux, souvent, en Sciences Éco, font deux parties. Donc, ces trois parties divisées en trois parties, c'est vrai que c'est un peu
Allez-y.
Formel. Donc, moi, j'aurais proposé, je peux annoncer le plan d'emblée, et puis ensuite, on reviendra dans les sous-parties, une première partie qui, justement, réfléchit sur la tentation de l'isolationnisme mais sa sortie, sortir de la tentation de l'isolationnisme et y re-rentrer d'une certaine manière, qui nous a conduit de 1918, où Wilson essaie de construire la SDN, essaie d'ouvrir les États-Unis au monde, jusqu'à 1941, où ils re-rentreront à nouveau dans une politique extérieure beaucoup plus visible, beaucoup plus marquée. Et pendant cette période-là, au contraire, un retrait, dans ce qu'on appelle les Roaring Twenties, c'est-à-dire les années 20, sur la croissance américaine et les affaires intérieures. Donc une première partie, 1918-1941, qui évidemment doit être justifiée par l'élève comme étant l'entrée en guerre dans la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci, après l'attaque de Pearl Harbor. Une deuxième partie où on examine là l'affirmation assumée des États-Unis d'être le leader du monde et qui nous conduit, leader du monde libre en tout cas, de 41 jusqu'à 85. On peut aller aussi d'ailleurs jusqu'à 80. Enfin, on peut décider. Là, la rupture chronologique peut varier. L'essentiel étant de montrer que la troisième partie, les États-Unis s'imposent au début comme gendarme du monde. C'est le retour de Reagan après une période de déclin de retrait relatif à une hyperpuissance contestée aujourd'hui. Et il faut évidemment finir sur la notion de cette hyperpuissance relative, d'une hyperpuissance. Alors la notion de déclin est beaucoup utilisée. Je crois qu'il faut être très prudent. Il faut pas affirmer un déclin des États-Unis, mais une hyperpuissance peut-être en déclin relatif ou en tout cas contestée.
D'accord. Alors on part tout de suite sur la première partie, donc avec vous, Nathalie Coste, donc sortir de la tentation de l'isolationnisme.
Alors ça a été évidemment la position de l'idéalisme wilsonien qu'on peut développer dans une première sous-partie où Wilson décide de faire entrer les États-Unis dans la direction du monde en adoptant un programme qu'il présente et qui a énormément de succès en Europe, beaucoup moins aux États-Unis d'ailleurs, qui est contenu dans ce qu'on appelle les 14 points, donc sur lesquels on va pas revenir, mais qui est à la fois une affirmation de deux principes très forts, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui sera repris après d'ailleurs dans la Charte de l'Atlantique, et la généralisation du libre-échange. Alors il y a d'autres éléments dans les 14 points, mais je crois qu'il faut insister là-dessus. Et c'est le moment où les États-Unis affirment aussi leur poids économique en 1918, puisqu'ils sont la seule nation en capacité de dominer la hiérarchie économique mondiale, qui sont à l'origine de 16% du commerce mondial, qu'ils ont 60% du stock d'or, et que donc ils s'imposent comme étant la nouvelle puissance, la vieille Europe étant évidemment en déclin. Donc le wilsonisme, on peut le rappeler, vaudra quand même aussi le prix Nobel de la paix à son auteur en 1918. 1919. Mais bien sûr, donc cette première sous-partie étant posée, on s'aperçoit que Wilson ne va pas avoir le succès aux États-Unis qu'il connaît en Europe, et les États-Unis ne vont pas ratifier, le Sénat américain ne va pas ratifier l'adhésion à la SDN. Et les années 20 aux États-Unis vont être des années de repli, hein, plutôt sur leur zone d'influence. Le principe de la SDN est donc refusé, le traité de Versailles est rejeté, et on a un retour des républicains, hein, aux élections présidentielles de novembre 1920 avec Harding, dont le slogan était « America first ». Voilà. Donc ces années-là sont marquées aussi, bien sûr, par le poids de la grande crise. Alors d'abord d'une prospérité euphorique, et puis ensuite le poids de la grande crise qui, évidemment, justifie encore plus le repli sur des intérêts nationaux. Ce qui est intéressant et qu'il faut que les élèves soulignent, une certaine neutralité à l'égard de la montée du fascisme en Europe. Alors cette neutralité, elle est visible par la faible intervention, y compris morale, des États-Unis sur un certain nombre de coups de force. Ce qui est intéressant tout de même, pour finir cette première partie, c'est de montrer que, bien que faisant ce choix d'un isolationnisme diplomatique, on va dire, ils sont quand même des acteurs incontournables, malgré tout, et surtout, leur soft power commence à ce moment-là à se diffuser.
Il faut diffuser, il faut mettre ce terme de soft power.
Oui, alors il est un peu anachronique pour cette période-là, parce qu'il est inventé. Voilà, il n'existe pas à ce moment-là, il est inventé plus tard par Joseph Nye, mais on peut en tout cas parler d'influence culturelle forte, que l'on peut attester par le fait que, par exemple, ils aient 3 prix Nobel de littérature dans les années 30, par la diffusion internationale d'un certain nombre de productions destinées à un très large public, les films hollywoodiens qui véhiculent l'image, hein, de cette société dynamique, moderne, jeune. Et là, on ne manque pas de documents pour illustrer cet aspect-là. Et puis, évidemment, on en arrive à ce deuxième moment de cette première partie où là, les États-Unis vont s'engager progressivement contre la montée des totalitarismes et sortir d'une neutralité. Alors, cette neutralité, on peut la rappeler par les fameuses noix de neutralité, ce qu'on appelle les neutrality acts, hein, dans les années 30. Qui interdisait de commercer et d'être en relation économique avec des pays belligérants, qui va être complété un peu plus tard en 39 par la loi Cash and Carry, donc qui est une petite avancée contre la menace nazie qui inquiète un petit peu les États-Unis, mais qui est encore très conditionnée au fait que ce soit les partenaires qui viennent chercher le matériel militaire et le paye, hein, comme le nom l'indique. Et puis progressivement, on a quand même la loi Prebaille, hein, qui montre que là, les États-Unis aident leur partenaire privilégié qu'est le Royaume-Uni. Avec cette fameuse phrase de Roosevelt qui présente la loi Prebaille comme un tuyau d'arrosage que l'on prête à un voisin dont la maison est en feu. Hein. Donc cette idée me marque bien les élèves, parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de progression crescendo qui aboutit bien sûr à l'entrée en guerre, hein, avec bien sûr l'agression japonaise.
De Pearl Harbor,
le 7 décembre 41.
Et là, on entre dans la deuxième partie de cette copie potentielle.
Voilà, alors peut-être indiquer quand même rapidement que cette entrée en guerre n'est pas juste une entrée en guerre diplomatique, mais qu'elle est un véritable engagement avec un programme d'armement qui s'appelle Victory Programme, qui est absolument conséquent, hein, qui représente 80% du budget fédéral, qui va mobiliser les industries dans une production absolument hallucinante. On a quelques chiffres très rapidement. On avait 2100 avions construits en 1940, on en a 87 000 en 1944. Voilà, l'élève peut juste faire cette transition en montrant que l'engagement n'est pas juste formel.
Et puis, peut-on introduire une personnalité comme celle de Roosevelt dans une copie comme celle-ci, parce qu'il est le prototype de celui qui passe d'une position à une autre.
Exactement.
Et que progressivement, à cause des 4 mandats, de son élection à 4 mandats, donc à la présidence des États-Unis, eh bien, il y a aussi celui qui est d'abord plutôt sur des positions isolationnistes avant de passer à des positions d'intervention.
Tout à fait. Je n'aime pas la guerre, disait-il. Ouais. Je n'aime pas la guerre. Et il va néanmoins, évidemment, après cette attaque surprise et traumatisante, hein, pour le peuple américain de Pearl Harbor, prendre la décision d'un engagement qui sera massif, technologique, scientifique. Ça sera le lancement très rapidement du Manhattan Project, c'est-à-dire de la bombe atomique. Ça sera les Victory Program, ça sera les Liberty Ship. Et puis, évidemment, l'envoi des boys dans les différentes opérations sur le théâtre européen.
Et Pacifique aussi.
Et Pacifique, bien sûr, ouais, tout à fait. Donc, on finira justement, d'ailleurs, par ce théâtre Pacifique, cette partie-là, en expliquant qu'avec l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, eh ben, on est véritablement là, dans l'affirmation à l'égard du monde et bien évidemment à l'égard de l'allié soviétique dont on se méfie déjà, d'une puissance qui ne se discute pas à ce moment-là. Et donc ça nous permet de faire une transition vers cette deuxième partie où là, les Américains vont affirmer de façon tout à fait assumée leur position de leader du monde libre. Alors ça peut se décliner de différentes manières. Dans un premier moment de cette deuxième partie, je crois qu'il faut que les élèves expliquent bien comment les États-Unis prennent la direction du monde libre, c'est-à-dire à la fois du point de vue idéologique, l'idéal onusien, la charte de l'Atlantique d'abord, peut-être rappeler que dès 1941, elle était discutée entre Churchill et Roosevelt. Ensuite, l'organisation de l'ONU, hein, la charte de San Francisco, qui, il faut bien l'expliquer aux élèves, n'est pas uniquement un projet formel d'organisation mondiale capable d'assurer la paix, mais aussi la prospérité, et qui va reconstruire un certain nombre d'agences un peu partout, un certain nombre d'organisations satellites, notamment la Banque mondiale, etc., le FMI, tout ça, et qu'on est là face à l'affirmation aussi d'une vision du monde, qui est ce qu'on peut appeler la Pax Americana, vue par Truman, hein, qui consiste à penser un monde qui sera un monde de libre-échange et démocratique.
Oui, avec peut-être, on peut y introduire la Déclaration universelle des droits de l'homme portée par Eleanor Roosevelt, par exemple.
Absolument, absolument, oui, tout à fait. Et évidemment, le versant géostratégique de cette nouvelle vision du monde a une doctrine, c'est la fameuse doctrine Truman, la doctrine du containment, hein, qui va s'exprimer très rapidement et qui va avoir pour objet d'endiguer le communisme soviétique. Et qui s'accompagnera très rapidement, comme on le sait, d'un plan qui est le plan Marshall, hein, ça que les élèves connaissent bien en règle générale, qui est à la fois un plan habile et intéressé, habile parce qu'il va effectivement permettre à l'Europe de se reconstruire, et intéressé parce qu'il tente de détourner du modèle soviétique les pays européens, notamment la France, hein, où je vous rappelle que le Parti communiste français était extrêmement puissant au sortir de la guerre. Et puis il y a tout un tas d'autres doctrines, mais on ne va pas les développer ici, sur lesquelles on peut s'appuyer, mais aussi des outils, le réseau Échelon, hein, qui permet d'intercepter les communications de l'adversaire, qui se met en place en 1948, et puis évidemment cette politique d'armement, hein, que l'on peut développer. Toujours appuyé pour assumer cette position de leadership sur, alors là, la diffusion d'un American Way of Life qui va séduire, comme on le sait, l'Europe, notamment, au travers, encore une fois, tous les supports traditionnels.
Les films, la bande dessinée, c'est ça. Alors les super-héros.
C'est ça, les super-héros, Captain America,
Superman, Batman,
hein, qui incarne une forme de culture de la puissance et en même temps une culture de l'adversité contre les soviétiques.
Donc ça, c'est dans la deuxième partie, cette partie donc consacrée à la période de 1941-1985. On avance
alors,
encore un petit peu.
On peut avancer en prenant un élément symptomatique de cette, enfin deux événements symptomatiques de cette volonté des États-Unis d'intervenir. Je crois que là, les élèves doivent mentionner la guerre de Corée. Ils doivent comme étant une projection. Alors même si c'est pas une opération américaine, c'est une opération de l'ONU, mais sous commandement américain, c'est quand même une force de projection en Asie, qui les inquiétait quand même depuis un moment. Ça veut dire que le champ européen n'est pas le seul. Et puis, juste évidemment, on peut continuer avec la crise de Cuba, hein, qui montre bien aussi la volonté de s'affirmer dans un bras de fer entre Kennedy et Khrouchtchev, comme étant des puissances qui ne transigeront pas sur les principes.
On avance encore un petit peu.
Alors on avance maintenant pour aboutir aux années 80. Alors on aurait pu mentionner.
On mentionne évidemment la guerre du Vietnam.
Exactement. Alors avant justement d'aborder les années 80, je crois qu'il faut s'arrêter un tout petit peu très rapidement dans la copie sur le fait que le modèle dans les années 60 est cependant remis en question aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Alors à l'intérieur, il ne faut pas s'étaler, mais mentionner quand même que c'est le mouvement pour l'égalité des droits civiques, que c'est la contre-culture hippie, hein, que c'est toute cette société qui va se mobiliser contre la guerre du Vietnam, justement, hein, qui est un point de crispation, un point un abcès de fixation, justement, des contestations du modèle. Et cette contestation est également externe et elle est menée notamment par le général de Gaulle.
Voilà, donc ça, c'est la période qui nous conduit jusqu'en 1985, très brièvement, Nathalie Coste.
Alors, même si dans ces années 85, donc il faudrait expliquer qu'avant les années 85, les États-Unis avaient, du fait de leurs difficultés intérieures et extérieures, opéré une forme de repli, hein, une forme de retrait.
On mentionne la prise d'otages de 1979 à Téhéran, par exemple, la révolution iranienne.
Tout à fait. Je pense qu'il faut mentionner déjà le traumatisme du Watergate et puis ensuite la révolution iranienne comme étant un moment de repli sur leur sphère intérieure. Et Reagan arrive, America is back. Le slogan est évidemment limpide. Et là, on a un réinvestissement extrêmement fort sur la scène internationale.
2-3 minutes pour conclure cette troisième partie, la conclusion, Nathalie Coste.
La conclusion, c'est qu'on est passé d'un leadership et d'un impérialisme américain assumé à un modèle qui a petit à petit été contesté à la fois dans la société américaine, mais aussi à l'extérieur. De nouveaux acteurs qui sont apparus, qui ne sont pas uniquement les acteurs de la guerre froide, mais notamment le Moyen-Orient, hein, et qui va venir un peu contrarier cette logique qui était mise en place depuis la guerre froide.
Donc c'était hyper puissant. Se contester, comme vous le dites, à partir de 1985, c'est notre troisième partie.
Voilà. Alors, pour cette troisième partie, je crois qu'il faut vraiment insister beaucoup sur ce que représente le mandat Reagan et son programme, hein, qui désigne l'empire du mal et qui fait de l'URSS son ennemi absolu, qui va lancer, vous le savez, un programme absolument considérable qui s'appelle l'IDS, hein, l'Initiative de Défense Stratégique, appelée autrement Guerre des Étoiles, qui va ruiner l'URSS et qui va contribuer à l'effondrement de ce bloc soviétique, même si bien sûr il ne s'explique pas que par ça, mais on ne peut pas rentrer dans une explication trop poussée, bien sûr. Alors, mentionnez quand même que avant cet effondrement du bloc soviétique, on a quand même une nouvelle forme de tension, une nouvelle période de tension qu'on appelle la guerre fraîche, hein, jusqu'à l'effondrement du modèle soviétique, qui est initié par ces initiatives de Reagan, hein, qui est initié par la volonté de Reagan d'en découdre avec l'URSS affaibli de son côté.
1989, chute du mur de Berlin, l'URSS qui disparaît au début des années 90, ça fait donc des États-Unis, a priori, la seule puissance, une sorte d'hyperpuissance monopolaire, pourrait-on dire, qui se met à être contestée tout de même.
Alors voilà, alors il y a quand même une période d'illusion, hein, je crois qu'il faut mentionner cette fameuse illusion d'un nouvel ordre mondial qui correspond au mandat de George Bush père et qui correspond à l'hyperpuissance américaine, militaire notamment pendant la guerre du Golfe, qui n'a plus d'adversaire. En tout cas, le croit-elle, puisqu'on va même pendant cette même période jusqu'à parler de fin de l'histoire. Hein. Et puis, bien sûr, l'actualité moyen-orientale vient un peu montrer que les ennemis vont être d'un genre nouveau, même si les États-Unis ont joué un rôle essentiel, notamment de règlement des conflits, notamment dans la question de l'ex-Yougoslavie. Mm-hmm.
Hein. Les accords de Dayton.
C'est ça, avec les accords de Dayton en 95. Et on peut insister aussi sur la nouvelle façon de faire de la politique extérieure de Bill Clinton, hein, lors de ses mandats, puisqu'il va développer la théorie de l'enlargement, qui est une forme de multilatéralisme, hein, qui combine à la fois le hard et le soft power, ce qu'on appellera sous Obama le smart power, notamment, et qui signe quand même encore une fois la puissance américaine par la signature des accords d'Oslo.
2001, évidemment, j'imagine les tours jumelles, tout ce qui se passe donc aux États-Unis, les États-Unis attaqués sur leur propre sol, donc ouais. Avec le 11 septembre, mm-hmm. Et peut-être là aussi des questions qui se posent vis-à-vis de cette hyperpuissance américaine.
Alors voilà, c'est très clairement, je pense, la troisième sous-partie de la troisième partie que l'on peut faire du 11 septembre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de montrer comment on est passé à partir de cette attaque du 11 septembre d'un choix d'une politique unilatérale et de guerre préventive, hein, en Irak notamment par George Bush, après avoir attaqué l'Afghanistan, qui a provoqué une désorganisation absolue, évidemment, du Moyen-Orient, qui a été ensuite... que Obama a essayé de gérer un peu différemment, hein, en rappelant par exemple son discours du Caire de 2009, cette volonté de main tendue au monde arabe, mais qui va être, comme on le sait, vaine. qui pourtant marquait quand même le retour à du multilatéralisme, très nettement, par rapport à Bush. Et pour finir, pardon, juste pour finir, je pense que la guerre en Libye est un bon indicateur de du positionnement d'Obama sur cette fin de période, du fameux « leading from behind », c'est-à-dire l'idée que on s'engage, mais avec prudence. La Syrie, bien sûr, aussi, hein, est une illustration de cette nouvelle façon de gérer les conflits.
On termine en concluant comment donc une copie comme celle-ci, en l'occurrence.
Alors je crois
Nathalie
qu'il faut
Coste.
Vraiment que l'élève remette en perspective la progression de ces relations des États-Unis au monde, qui est passée par à la fois la volonté de se protéger de lui et en même temps d'en être un partenaire incontournable, voire hégémonique. Donc qu'on est passé d'une puissance incontestée à aujourd'hui un renforcement de la multipolarité et à d'autres puissances émergentes qui viennent atténuer les formes de sa puissance, que le soft power reste un moyen de maintenir cette puissance américaine au monde, mais que l'avenir de cet empire américain est évidemment très incertain.
Merci beaucoup Nathalie Coche. Je rappelle que vous êtes professeure au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, que vous êtes venue avec deux classes donc pour cette présentation de ce corrigé consacré donc aux États-Unis et au monde, donc la puissance américaine dans le monde. Des questions à poser à votre prof. Allez-y, mademoiselle, allez-y.
Ça marche là ?
Oui.
Okay. Est-ce qu'on peut parler aussi du discours d'Obama au Caire en conclusion ou à la fin de la troisième partie ou pas ?
Alors pas en conclusion parce qu'il est déjà dépassé. La conclusion, ça doit faire un bilan global hein, sur le sujet et ouvrir vers une période actuelle. Et le discours d'Obama date de 2009. Mais par contre, le mentionner comme étant clairement une volonté de se positionner en rupture avec ce qu'avait fait George Bush, fils, oui, bien sûr, il faut le mentionner.
Et du coup, en conclusion, on peut mettre ce qui est d'actualité avec Trump ?
Oui. Moi, je pense que... Alors, évidemment, sans faire d'affirmation,
ouais,
hein, mais en ouvrant, en disant qu'il y a des incertitudes et qu'on ne sait pas très bien s'il est interventionniste ou isolationniste et qu'il est sûrement un peu les deux.
Une dernière question, une dernière remarque à votre professeur Nathalie Coste autour de cette question sur la puissance américaine dans le monde. Oui, jeune homme.
On a vu que les États-Unis avaient une politique plutôt isolationniste. Pourtant, c'est en contradiction avec le nouveau président Trump qui a augmenté les dépenses militaires et organisé des actes extra, en dehors des États-Unis. Donc, est-ce qu'on peut vraiment considérer que la politique actuelle des États-Unis est isolationniste ?
Tout à fait, c'est une excellente remarque. Je pense que on peut finir par le fait de douter. On peut finir par mentionner cette évolution du budget militaire qui est considérable cette année, hein, pour 2017. Je crois que c'est 14 milliards de dollars et indiquer que c'est pas tellement, en effet, en cohérence avec la citation de départ, si on a retenu celle-là, hein, qui consistait de dire que l'internationalisme américain était un bad deal.
Merci beaucoup Nathalie Coste et merci à vos élèves qui sont venus à la Maison de la Radio pour l'enregistrement de cette émission consacrée au programme du baccalauréat de cette année autour des États-Unis et du monde. Il faut remercier Aurélie Marseille qui a préparé cette émission ainsi que toutes les autres et aussi à la technique Olivier Dupré, Émilie Couette, Célia Dufour, Titouan Ouex, Chardonnay Stevens et à la réalisation Véronique Samouilov. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Allez la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion. Vous pouvez également réécouter les émissions anciennes de la Fabrique de l'Histoire consacrées au programme du baccalauréat. Demain, nous continuerons cette série en nous intéressant à un troisième sujet, à savoir la guerre d'Algérie. Et nous diffuserons un documentaire, un reportage sur les lieux du massacre du métro Charonne à Paris en 1962 en ouverture de l'émission de demain.